Bonjour à tous. Merci Pierre-Claude pour le choix des chants. J'ai beaucoup apprécié le dernier. J'avais presque envie de plus regarder que chanter. Hein, c'était beau de voir cet enfant dans les bras de son papa qui peignait avec lui. Et je me suis dit, est-ce qu'il a peur cet enfant-là? On a parlé de la peur. Hein. Qui est-ce qui pense qu'il a peur cet enfant? Moi, je pense qu'il a des passages où il a peur, mais il a son papa qui est là. Hein, c'est peut-être, on en parlera tout à l'heure hein, aussi, l'adoption. Hein, je pense qu'on a tous des peurs au fond de nous qui sont parfois comme ça insaisissables, en tout cas moi, et on ne sait pas trop d'où ça vient, etc. Et le pire, j'ai envie de dire, c'est de dire « j'ai pas peur ». En tout cas moi, ça ne me fait pas dire maintenant « j'ai pas peur ». Les enfants font des fois ça. « Ben si, j'ai peur ». Mais par contre, je peux être à un endroit où je me sens sûr. Quand on a peur, il faut être à un endroit où on se sent sécurité. Et je pense vraiment auprès de Dieu qu'il y a cette chose qui transcende tout ce qu'on peut des fois avoir comme peur, plus ou moins réelle, plus ou moins imaginative, pour dire ben, j'ai auprès du Père une sécurité profonde qui fait que je peux réellement me sentir en sécurité et traverser les moments de peur, me réjouir d'être avec lui, des moments de joie, tout ce qui va bien aussi. Avant de commencer le message, j'aimerais faire une petite annonce. Vous avez peut-être déjà vu, on a les flyers pour The Chosen qui sont sortis. Il y en a derrière là-bas, sur le présentoir. Il y en a un stock aussi dans l'armoire derrière. Juste rappeler, donc ici, The Chosen, c'est 4 soirées qu'on aura de projection de la saison 1 de The Chosen. Donc, on commence à la première saison. Et l'objectif, c'est d'inviter des gens, pas de s'inviter les uns les autres, hein, pas d'inviter celui de l'Église là, qui connaît déjà Dieu, mais en premier, priorité des gens qui sont en recherche de Dieu. Et je crois vraiment que c'est l'occasion, on va faire ça en 4 soirées. Donc, voilà, réfléchissons à qui on est en contact. C'est peut-être ça la première idée. On ne va pas faire de distribution large, hein, on n'ira pas dans toutes les boîtes aux lettres, la moitié sont déjà fermées, inaccessibles, donc c'est un peu difficile. Mais dire, ok, j'en prends quelques-uns, prenez-en le nombre que vous avez l'intention de distribuer. Hein, aussi pour éviter qu'on en prenne 20 et puis on en met la moitié à la poubelle à la maison. Prenez-en et puis dites, vous n'avez pas obligé de les prendre tout de suite, mais j'en prends 10, et à quelles 10 personnes je vais pouvoir les distribuer cette semaine, etc. Voilà, qui est, j'ai envie de dire quelque chose de l'ordre de, voilà, c'est précieux, j'ai envie de distribuer à une personne qui m'est précieuse. Avec qui j'ai du contact, c'est peut-être plus facile quand même de dire à quelqu'un, je la connais déjà, et puis je dis, écoute, tu connais The Chosen, il y a une série qui parle de Jésus, je ne sais pas, qui a jamais vu une émission de The Chosen? Quelqu'un? Non, jamais. Donc, oui, Isolde, c'est pas de honte. Hein. Donc voilà, la plupart ont déjà vu. Donc, vous voyez un peu le style d'émission, hein, donc c'est de série plutôt, c'est le regard plutôt des autres sur Jésus. Hein, donc c'est un peu particulier, avec beaucoup d'émotions aussi, etc. Donc ça peut aussi toucher les gens, mais le message, je dirais, de l'Évangile est bien là, et le message de l'Évangile n'est pas biaisé. Donc voilà, prenez-en ce que vous pouvez, il y en a là derrière, ils sont tous là, voilà, le reste il y a dans l'armoire qui est juste derrière, et distribuez-en autour de vous. Je ne sais pas si on peut passer la première slide. Vous avez vu ça mercredi? C'est qui a vu? C'est pas ma photo, hein, j'avais pas un appareil, il fallait pas trop prendre des photos. C'était l'éclipse solaire. J'en parle, voilà, un peu d'introduction. Qu'est-ce que ça vous a fait? Voilà, ceux qui ont vu ça, vous êtes dit, ouais, c'est calculé, on savait exactement les astres en tant de mille kilomètres, etc. Est-ce que c'est ça? Il y a un peu le côté compréhension, hein, astronome, là. De toute façon, ça, c'est de la matière, etc. On calcule, etc. Ou alors, ça, il y a un côté plutôt émerveillement. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Je me suis dit, waouh! Comme ça, ça y est, on voyait rien, puis il fallait mettre des lunettes. Et tout à coup, on voyait un truc extraordinaire qui apparaissait avec des lunettes. Et puis, ces lunettes, quand on regardait, c'était la nuit. Donc, c'était vraiment un filtre fort, hein, pour éviter de se brûler l'oreille. Et si j'en parle, c'est que c'est Je suis tombé sur un article du journal du Temps qui invitait ses lecteurs, dans un sous-titre de l'article, « Réapprendre à s'émerveiller ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors là, j'ai un peu lu, mais... Alors, si ce phénomène a éveillé l'émerveillement du journaliste et de beaucoup de monde, ben, j'espère aussi que cet émerveillement conduise aussi à contempler celui qui a créé le soleil, la lune, la terre, et puis qui a permis à nous, petits terriens, de voir un phénomène qui est quand même assez extraordinaire. On a chanté les étoiles. À un moment donné, il y a une étoile qui s'aligne avec la lune et nous, qui est très, très rare. La prochaine fois, c'est en 2080, 90, je ne sais pas exactement. Donc, on ne sera plus là, en principe. Hein, donc, c'est quand même assez rare comme phénomène. Voilà, quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis dit, ben, cet article, peut-être, certains vont se dire, mais je m'émerveille, c'est beau, mais ce n'est pas venu par hasard, tout ça, quand même. Hein, c'est pas... Il y a quand même quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ça fonctionne. Il y a la possibilité même de le voir, alors que hein, je pense aussi à Dieu qu'on ne peut pas voir. On peut faire des fois le parallèle du soleil et de Dieu. Alors, on n'adore pas le soleil. Hein. Beaucoup dans l'Antiquité ont adoré le soleil à un moment donné, c'était comme un Dieu. Mais il y a des parallèles. Le fait qu'on ne peut pas voir, hein, on pouvait, si on regardait dans les yeux, dans la lune, on se grillait. Et je pense que Dieu, il est aussi comme... On ne peut pas le voir, Dieu. C'est impossible de le voir. C'est trop puissant, c'est trop éclairant. Mais il y a des filtres. Et je pense Jésus, je le vois, je pense ça maintenant, c'est peut-être un filtre qui nous permet à un moment donné de voir le soleil qui est là. Et le filtre, c'est la parole, je pense aussi. Ben, voilà, je lis ce verset, ah, c'est ça. Maintenant, je comprends. Maintenant, il y a le Saint-Esprit et Dieu qui sont là, qui agissent à travers ce filtre pour nous permettre de voir Dieu. Même quand on a une nu, c'est impossible de le voir. C'est un culte un peu spécial. Hein, donc demain, c'est la rentrée des classes. Il y a des profs parmi nous, Olivier. Tu as déjà eu un peu la semaine de préparation, je crois, un peu pré-rentrée. voilà. C'est une reprise peut-être pour le travail, pour certains. Je ne sais pas si certains reprennent demain. Des activités d'église, on va reprendre. Peut-être des activités de loisirs, associatives. En principe, les clubs s'arrêtent l'été et reprennent. Mais aussi de nous retrouver ce soir ici, c'est aussi une forme de reprise. On a été six cultes au presbytère et on revient ici dans ce temple. J'espère que cette pause vous a fait du bien, si vous avez pu prendre du temps, qu'elle vous avez pu goûter un peu au repos, en vous ressourçant dans ce qui est propre à vous. On n'est pas tous les mêmes, savoir ce qui nous ressource. Hein. Certains, ça doit être l'adrénaline, d'autres, c'est du calme, d'autres, c'est des lectures. J'espère que vous avez trouvé des lieux, des moments pour vous ressourcer. Malgré la canicule qui, en tout cas pour moi, un petit peu plombée quand même, j'ai l'impression que ça fatiguait aussi, qu'il y a un peu une couche de fatigue qui s'accompagnait du repos. Donc on est un petit peu, on reprend, mais on est fatigué un peu comme avant. Donc je ne sais pas si vous ressentez un peu ça. Et il semble que c'est un peu lié quand même à cette canicule qui persiste là depuis un mois, je pense plus ou moins, ou plus qu'on atteint chaque jour presque des 30 degrés plus. Quand on fait face à ces rentrées ou ces voilà, recommencements, on peut avoir un peu des sentiments, hein, des émotions variées, voire assez variables, entre de la joie, enfin les vacances terminées, vivement que je peux à nouveau commencer, avec de la reconnaissance, j'ai vraiment vécu des bonnes choses, je suis vraiment nouveau fit, ou ça peut être plutôt de la tristesse mêlée à des appréhensions, des peurs de ce qui nous attend demain ou la semaine prochaine, quand on reprend certaines choses qu'on avait mis un moment de côté et qu'on reprend, voilà, vie courante, vie quotidienne se reprend. Au-delà de ça, ce qui ne change pas, c'est la présence de Dieu. Hein, elle est là, dans nos vacances, dans les moments où on est actif, dans ces transitions vers les reprises. Dieu est toujours là et c'est ce qu'on va voir ce soir à travers un psaume. Le psaume 27, David nous parle de ça, hein, de la présence de Dieu. On va voir ce que ce texte nous dit. On va voir ce filtre. Ça, c'est, j'ai un peu préparé ce filtre pour que vous puissiez voir Dieu à travers ça. Peut-être que vous allez retirer quelque chose, voir quelque chose de nouveau dans ce texte. J'aime bien commencer par le contexte. Vous me connaissez certainement. J'ai suivi une formation durant cet été pour apprendre à connaître... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'arrière-plan judéo-chrétien du Nouveau Testament. Et c'est très, très intéressant. Puis le gars, il nous disait presque à chaque leçon, là, c'était online, hein. Mais comprenez, le contexte est tellement important. Le contexte pour mieux accueillir le texte. Certains ont des fois peur que le contexte nous éloigne de la parole de Dieu, mais moi, je le vois vraiment comme un élément qui nous permet de voir mieux ce texte et tout à coup se dire, mais attends, ça, je n'avais jamais compris. Hein? Là, par exemple, c'était sur l'arrière-plan romain aussi, hein, le premier siècle avec les chrétiens. La place de Rome, de l'Empire, parmi les chrétiens du premier siècle. C'était juste, on n'arrive pas à s'imaginer la pression. L'empereur qui demandait le culte à l'empereur. Hein. Après, il y avait des empereurs horribles, hein, des Nérons, etc. Et tout ce que ça avait un impact. Et ceux qui ont écrit là, et en particulier, ils parlaient assez souvent quand même de l'Apocalypse. On arrive à comprendre certaines choses de l'Apocalypse avec cette compréhension aussi de l'arrière-plan. Dans quelles circonstances l'Apocalypse a été écrite? C'est vraiment durant ce premier siècle, avec tout le culte grec aussi qui est derrière, culte à l'empereur, etc. Donc, je vais vous donner quelques éléments du contexte de psaume 29 et le contexte peut aussi des fois un petit peu remettre en place certaines présuppositions qu'on peut avoir. Hein, on a des fois des choses, c'est comme ça. Alors, moi, j'aime bien des fois dire, OK, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça, mais tout à coup, je le vois un peu autrement. Donc, ça peut des fois être soit un peu nous bouleverser, dire, OK, attends, on m'a jamais dit ça, mais t'es sûr hein? Donc, ça évite un peu, on remet en question. Ou alors on se remet en question ce que l'autre a dit, ou on se remet en question peut-être, et dire, mais c'est quelque chose que, ah, je comprends mieux, pourquoi c'est écrit comme ça. Donc voilà, quelques mots sur le contexte, qui c'est qui l'a écrit? Voilà, ça marche. Donc traditionnellement, c'est attribué à David, donc vous verrez peut-être dans vos Bibles, psaume de David, même si certains chercheurs bibliques modernes pensent que cela pourrait être aussi bien que ça a été écrit, que ça lui a été dédié, que c'est une collection de davidiques, de textes qui s'inscrit dans la tradition. Donc nous, on peut vraiment retenir, moi je crois que c'est la première version pour moi, étant donné que David, tout ce qui est écrit là, c'est vraiment cohérent avec la vie de David. Moi, je crois volontiers que c'est David. Donc ça a été écrit par un berger, choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël, hein, ce grand David, selon la promesse qui a été faite à Abraham. Quand, plus ou moins 1000 avant Jésus-Christ, hein, durant le règne de David. Donc juste s'imaginer. Voilà, il y a plus de 3000 ans que ce texte a été écrit, qu'on va le lire tout à l'heure, et il a traversé les âges. Il est toujours d'actualité, extraordinaire. Pour qui? C'était une prière personnelle au début. David, il était, je pense, un peu poète, il écrivait ses prières. C'est devenu des psaumes, c'est devenu un des psaumes les plus lus, chantés dans les traditions juives et chrétiennes. Voilà, vous le connaissez certainement, il y a des versets que vous avez dit, mais celui-là, je le connais, je peux presque faire un concours, il y a, je pense, aucun qui me dirait, il n'y a aucun partie du texte que j'ai déjà entendu, que j'ai même mémorisé. Donc voilà, c'est un texte qui ne nous est pas directement destiné, mais qui continue à nous parler aujourd'hui. Une prière personnelle qui devient un poème chanté, récité par le peuple de Dieu. Et je me suis dit, ici, nos créations personnelles, hein, des fois, on est... était davantage des fois comme un poème de David, je ne sais pas comment ça s'est passé, hein, mais à un moment donné, il a écrit son poème dans son coin, dans sa grotte, ou je ne sais pas où, et c'est devenu tout à coup quelque chose qui est chanté, qui est récité, qui traverse les âges. Si on utilisait plus des fois nos dons, ou voilà, des choses qu'on fait personnellement pour le mettre à disposition des autres, on le fait un peu à travers la news, hein, il y a voilà, tous les mois une publication d'un dessin, il y a actuellement 4 fidèles et talentueux dessinateurs qui mettent à disposition. Mais je rappelle, il y a bien d'autres. Si à un moment donné, vous avez un poème, par exemple, alors bien sûr, hein, vous le vous exposez, mais ce n'est pas si large, c'est la news de l'Église, donc ce n'est pas non plus sur Internet, partout. Mais si vous dites, ben, j'ai écrit un poème que je trouve chouette, et puis j'ai envie de partager. J'ai déjà souvent dit, on ne cherche pas la perfection hein, dans ces news. On cherche à montrer, à valoriser des talents et peut-être aussi des paroles de Dieu qui viennent, et puis on se dit, OK, je l'ai écrit dans ma chambre, j'ai composé une petite musique dans ma chambre, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je veux partager, ben, contactez-moi, on garde pour une news ou une autre manière, ou alors partagez-le sur le groupe ELG. Voilà, partagez un peu ce qu'on reçoit, comme ici pour David, prière personnelle devient un des psaumes les plus lus encore aujourd'hui. Où et dans quelles circonstances? Ben, il n'y a rien d'écrit dans le texte, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a été écrit par David qui était poursuivi par le roi Saül hein, avant de devenir roi. Et cette période, vous la retrouvez dans le chapitre de 1 Samuel, les chapitres 19 à 31. Donc écrit dans des circonstances plus que rocambolesques. Un homme en fuite, menacé de mort. Et je me suis dit, aujourd'hui, beaucoup de gens, alors c'est David qui a fui, combien de gens sont en fuite dans le monde aujourd'hui hein, tous ces migrants, c'est aussi une forme de fuite, ils quittent pour retrouver quelque part un salut, une situation meilleure. Il y a des milliers de gens en fuite dans le monde actuellement pour diverses raisons. Et David était un de ces hommes en fuite. Ce n'était pas une crise économique, c'était un homme qui voulait à sa vie. Et parfois, dans certains pays, ben, c'est des rois qui en veulent à la vie de certaines personnes, des présidents qui peuvent aussi, pour diverses raisons, notamment la foi, parfois, faire que des chrétiens doivent fuir aussi devant des menaces de mort. Et quelle forme de test ? C'est un poème hébraïque destiné à être chanté ou récité. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui avec des chants. Plusieurs chants aussi ce soir ont des paroles qui sont plus ou moins directement aussi inspirées de textes de ce psaume 27 qu'on va lire ensemble. C'est peut-être un peu petit, mais vous avez tous certainement votre téléphone si vous voulez suivre ou votre Bible de ce psaume 27. Nous le lisons dans la version que j'ai prise, second 21. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quand je disais ce texte plusieurs fois, je me suis d'abord pris un peu un recul, c'est de manière globale, on viendra plus en détail après, mais je vois un homme, David, qui se pose des questions dès le début, qui fait des demandes à Dieu, à l'Éternel, hein, qui écoute son cœur, en connexion aussi avec son cœur, ses émotions, tout en ne laissant pas, en se laissant pas guider que par ses émotions, puisqu'il arrive aussi à aller plus loin et à écouter aussi ce que ce cœur, ses émotions veulent lui dire, lui faire comprendre, en particulier aussi dans sa relation avec Dieu. Je rappelle que c'est une prière qu'il a fait à Dieu en premier ici. Il est dans son situation, en fuite, et il adresse cette prière à Dieu. Le premier point, les deux affirmations, David, il commence par deux affirmations. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est des affirmations puissantes, c'est des affirmations vraies. Certainement qu'elles sont directement aussi liées à ce que David connaissait de l'Éternel, à son expérience passée. Et ces affirmations sont suivies ici de deux questions. Mais de qui aurais-je peur ? Qui devrais-je redouter ? Il se pose ces questions-là. Je me suis posé la question, combien de temps s'est passé à méditer sur ces deux questions ? On ne sait pas. Hein. Je vois juste dans ma Bible, il y a un peu des espaces entre les passages et entre le premier verset et les suivants. Il y a un espace, comme s'il y avait un peu une pause là-dedans. Donc il semble qu'il ait peut-être pris un peu de temps pour se poser, pour répondre à ces questions qui se posaient. Était-ce facile à y répondre ? était-ce difficile? On aurait peut-être tendance à dire que c'était facile, hein, l'Éternel est ma lumière. Mais rappelez-vous les circonstances dans lesquelles il écrit ça. Il était en fuite devant Saül, hein, qui sentait que son trône était menacé suite à l'onction qu'il avait reçue de Samuel pour devenir le nouveau roi. Mais je pense qu'il sentait aussi comme un décalage entre ce qu'il proclamait et ce qu'il ressentait par rapport à sa confiance en Dieu. Et nous posons-nous aussi parfois ce genre de questions quand on sent que ce qu'on affirme, hein, c'est comme un peu décalé avec ce qu'on ressent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois on dit des trucs comme ça, c'est un petit peu des paroles, soit on n'est pas tellement conscient de ce qu'on dit, ou soit on se dit, mais attends, je dis ça, mais au fond de moi, c'est quoi? Et c'est vraiment ça. Est-ce que Dieu est vraiment ma lumière? Est-ce que ce que je dis représente une réalité à laquelle je crois dans ma vie? Et la suite, hein, les versets 2 nous montrent que David s'est posé des bonnes questions parce qu'elles ont apporté du changement dans son cœur. Les vérités au sujet de ses attributs de Dieu, il a pu se les approprier. Et au final, la confiance a repris place dans son cœur. Il voit dorénavant les méchants, hein, donc ceux qui font le mal, ceux qui lui font du mal directement, trébucher, tomber, alors que lui reste debout. Et face à une armée qui se lève contre lui pour lui faire la guerre, il n'éprouve pas de crainte. Il reste malgré tout plein de confiance. Les situations, les circonstances ne changent pas, manifestement, mais son cœur retrouve la confiance et l'assurance en celui qui est sa lumière, son salut et le soutien de sa vie. Ensuite, dans les versets 4 à 10, il fait une demande. Une demande à Dieu qui montre aussi son attachement à Dieu et son désir aussi de vivre près de lui. Il fait cette demande pour pouvoir contempler ça, donc cette demande d'être près de lui, de vivre près de lui, pour contempler sa beauté, pour admirer son temps, pour être en sécurité, pour lui offrir des sacrifices avec la louange, des cris de joie. Et certainement même que ce n'est pas ici avec de la musique, on sait que David jouait de la harpe. Donc c'est une demande qui est, je vois, vraiment centrale. Et on parle aussi souvent de l'importance de vivre dans l'être avec Dieu, en relation avec lui, de contempler ce qu'il fait, contempler ces lieux où il demeure. Ici, c'est un temple dédié à lui. Nous, c'est notre cœur, il demeure en nous et se sentir aussi en sécurité auprès de lui. On pourrait facilement dire ici, bon, c'est logique. On prie pour être en relation avec nous, c'est logique. Et en même temps, je pense que ça allait vraiment en contresens de la logique, car si j'avais été à la place de David, on fait quoi quand il y a une situation comme ça à la place de David? Moi, j'aurais commencé, Seigneur, tu fais que mon ennemi arrête, tu fais que ça n'aille plus, tu fais que ça n'aille plus. Donc, il n'a pas commencé par une liste de demandes, d'interventions de Dieu. Il a demandé à Dieu, j'aimerais juste être dans ta présence. Il demande même une chose unique, il dit qu'il désire ardemment. C'est comme si ça, c'est quelque chose de central, d'unique, vivre toujours avec Dieu. Et cette demande, ben, il n'a pas fermé les yeux, elle nie pas ses besoins immédiats, mais il sait que tout ce qu'il a besoin est auprès de Dieu, qu'il le protège lorsque malheur touche, qu'il le cache sous l'abri d'attente, comme il est écrit, qu'il l'élève sur un rocher solide. Cette demande pour quelque chose qu'il attend, tous ses verbes sont futurs, sauf déjà sa tête se dresse au-dessus des ennemis qui l'entourent. Donc David est en fuite, il adresse cette prière à Dieu qui agit en redressant sa tête pour voir autrement, pour voir ses ennemis au-dessous de lui. J'ai bien cette idée que la tête s'élève. La tête, c'est important, c'est, en tout cas chez les hommes, c'est quand même assez important la tête. C'est bien là que Dieu travaille. On dit des fois que Dieu travaille notre cœur. J'ai des fois l'impression que Dieu travaille le cœur, mais il commence par la tête, en tout cas chez moi. Parce qu'il y a besoin finalement, le cœur et la tête sont quand même assez liés. Il commence par la tête pour qu'il puisse aussi prendre la hauteur, voir les circonstances autrement, avec un regard renouvelé, avec des pensées différentes. Sachant aussi que Dieu fait, pour qu'on connaît bien ce verset, concourir toutes choses à notre bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est dans Romains 8, 28. Comme David qui aime Dieu, comme chacun de nous qui aimons Dieu, Dieu fait nous concourir toutes choses à notre bien. C'est quoi notre bien? Ben avec ce verset, je peux vraiment dire, avec ce que David dit, c'est de vivre auprès de Dieu. C'est ça. en premier. C'est ça mon bien. C'est ça de vivre auprès de Dieu. Après, David vient avec les demandes. Hein. Mais d'abord, il commence avec ça. On voit David qui se sent abandonné après, à partir du verset 7. Il va même jusqu'à penser que Dieu n'est plus là. Mais il écoute son cœur et exprime aussi sa douleur. Je vais paraphraser ces versets 7 à 9 que vous pouvez voir ici à l'écran, de la manière suivante. « Éternel, écoute-moi, t'es bien là ? Aie pitié de moi, je doute de ta présence et du coup que tu puisses répondre à ma demande. Mais je vais écouter mon cœur, cette petite voix au fond de moi qui me dit « Recherche-moi ». Alors oui, je continue à te chercher, mais ne te cache pas, s'il te plaît. Ne me repousse pas comme si tu étais fâché avec moi. Il n'y a que toi qui puisses me secourir. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Sauve-moi. » Le sentiment d'abandon, je ne suis pas psychologue, mais on dit que c'est un sentiment fort et un sentiment qui peut être particulièrement fort chez les enfants. Justement, c'est le sentiment d'appartenance plutôt. Il se développe chez les enfants. Et c'est un... Pas sûr, parle de syndrome, en tout cas assez classique chez les enfants adoptés, hein, qui ont perdu leurs parents, jamais eu, etc. Ils sont adoptés, puis à un moment donné, ils traversent des phases, à un moment donné, de se sentir accueillis par ceux, les parents en principe, ceux qui devaient leur donner le plus d'amour, leur développer cette confiance, tout à coup, ils ne sont plus là. Et ça peut être quelque chose d'assez fort. Et pourquoi David se sent-il abandonné ? C'est la question que je me suis posée. Et en discutant avec Catherine, ma chérie, elle m'a dit « Mais tu te souviens aussi, David, comment il a été choisi ?» Vous vous souvenez comment il a été choisi, David, là ? Et je pense qu'il a vraiment vécu une forme d'abandon. Hein, Samuel vient, il dit à Isaïe « Tu prendras tes fils, passe tous devant. » Non, 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 non. Puis Samuel lui dit « Mais tu n'as pas encore un autre fils ?» Peut-être qu'il a dû réfléchir un moment, hein, le père. « Ah ouais, lui, hein. » garde des moutons là-bas. Il y a un blanc plus jeune, mais il garde ses brebis. Et puis, ça, c'est moi qui ajoute, hein, même que je suis... J'hésite à le dire, mais il est juste bon pour ça, alors que c'est certainement important, hein, de garder des brebis. Mais en tout cas, il ne s'imaginait pas, quand Samuel lui a dit « Prépare quelqu'un qui recevra l'onction », il ne s'imaginait pas que cette onction pouvait venir sur ce dernier. Donc, j'interprète cet oubli d'Isaïe, donc le père de David, comme du mépris. Et qui a été certainement ressenti par David comme une forme d'abandon, de son père en particulier. Le verset 10 montre que ce sentiment d'abandon, qui généralement conditionne aussi négativement notre manière aussi de se relier aux autres, peut être transcendé par notre relation avec Dieu. Et quand David exprime cela, il pense certainement à ses parents, hein, en déclarant que même ceux qui auraient dû lui donner un sentiment d'appartenance et de sécurité défaillent, Dieu recueille et restaure ce qui nous manque. Et c'est un processus qui prend du temps, comme on peut le comprendre aussi dans ce psaume. Oui, David a vécu l'abandon, donc moi j'affirme ça, je pense qu'une forme d'abandon en tout cas, et il a trouvé auprès de Dieu une sécurité que personne d'autre n'a pu combler pleinement jusque-là. Dans cet environnement hostile, hein, où il est violent, rempli de mensonges, David vient maintenant à dire « J'ai besoin d'être enseigné par Dieu pour faire les bons choix, pour suivre la voie de Dieu et être conduit dans le sentier de la droiture, comme il est écrit au verset 11. » Et puis avant d'en arriver à reconnaître ce besoin qu'il exprime dans cette demande, David a eu besoin d'être sûr que Dieu était digne de confiance et qu'il n'allait pas l'abandonner. Pour cela, il a d'abord fait cette première demande qu'on a vue, « J'aimerais habiter près de toi, dans un environnement sécur. C'est là que j'aimerais d'abord être. » Et après vient cette demande, et la demande d'enseignement, de conduite qu'il exprime à l'Éternel, montre aussi qu'il se sent vulnérable, qu'il se sent impuissant. Il doit faire quoi ? Vous imaginez ? Un petit peu, il a reçu l'onction, donc il se dit « Ok, Dieu me veut roi. » Et puis celui que je dois remplacer, il veut me tuer. Je dois faire quoi ? Un peu de ces situations, on est juste Je ne sais pas si des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on reçoit, où Dieu nous parle, et ça ne va juste pas logique avec ce qu'on vit. Il y a comme une espèce de décalage, et je pense qu'il est là. Donc du coup, il se sent impuissant, mais je dois faire quoi face à mes adversaires ? À commencer donc par Saül, ici, qui voulait sa mort. Donc nous aussi, que faisons-nous de nos vulnérabilités, notre impuissance, et les reconnaître comme David dans ce texte, puis de demander à Dieu aussi de nous conduire sur un sentier de droiture. Ce qui ne veut pas dire droit. J'ai remis ici l'image de ce tableau qui a été fait par Catherine, qui est dans la dernière news. Des fois, on s'imagine sur des sentiers droits, mais ce n'est pas forcément des sentiers droits. Ils sont droits, mais ils peuvent être sinueux. Vous voyez là un peu la subtilité. C'est des chemins sur lesquels Dieu nous fait avancer. Parce que des fois, le chemin droit, c'est un peu le truc. Aucun problème, hein. Non, il y a des virages. Comme ici, il y a des virages. Ça va là, mais c'est le bon chemin. Dieu nous fait avancer sur ce chemin. Le verset 13, je vais lire. Hop, ça vient. Oui, ça vient. Il est un peu spécial. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » C'est un peu une phrase spéciale, hein. C'est la particularité de ce psaume. Donc à la suite de ces textes précédents, David peut dire avec confiance que Dieu est bon, qu'il l'accueille comme un père, on a parcouru ça avec lui, qu'il ne l'abandonnera jamais, qu'il éclaire pour avancer sur la voie préparée par Dieu, qu'il le protège. Et en même temps, il se demande peut-être cette petite fois, mais je suis vraiment sûr de ce que j'affirme là, mais c'est vraiment sûr. En fait, je crois que David réalise que ce n'est que parce que Dieu est bon, envers lui, mais aussi envers tous les vivants, on parle du pays des vivants, indépendamment de son assurance qu'il peut vraiment vivre. Ses doutes ne changent rien à la bonté de Dieu. Ses doutes ne changent rien à la bonté de Dieu. Sa vie, la vie de chacun dépend pleinement et uniquement de la bonté de Dieu et des grâces qui en découlent. En cherchant cette image, j'ai assez bien aimé. Je ne sais pas ce qu'elle vous parle. Cet enfant, il est d'un côté confiant et en même temps un peu entre confiance et doute. Hein. Je suis confiant, ils ne vont rien me faire, mais vraiment, est-ce qu'ils vont... Il est un peu entre deux, des fois. Et c'est peut-être aussi un peu des fois comment on peut se sentir. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. C'est normal. David, le grand roi, il a douté. Je pense que c'est quand on ne doute plus que ça devient dangereux. C'est ma conviction. Vous avez vu ces gens qui ne doutent plus du tout. Tac, ça veut dire à un moment donné, ils sont sûrs de tout. Et sûrs de tout peut aussi être à un moment donné se tromper. Donc, un peu avoir des doutes parfois. On ne remet pas en question notre foi, hein, mais parfois des doutes sur est-ce que Dieu est vraiment bon ? On en a parlé aussi avec Juvet, je crois, à un moment donné, la bonté de Dieu. Elle peut nous faire douter. Les circonstances de la vie. J'ai été touché, c'est qu'il était à l'enterrement de la maman de Jean-Marc. Ça a été dit publiquement, je peux le dire, mais il m'a dit qu'elle a été 50 ans en errance, sa maman. Parce qu'elle a vécu à un moment donné une situation difficile dans sa vie qui l'a fait prendre du recul. Un peu du style, si Dieu est bon. Hein. Alors, je ne connais pas les détails du tout. Alors, heureusement, il a témoigné qu'il y a une année et demie, il a pu parler avec elle, elle a pu nouveau se reconnecter à Dieu, elle a pu nouveau dire, ouais, je crois en Dieu, je sais que mon Dieu vit. Voilà, aussi, l'assurance du salut, finalement, elle a pu faire ce pas. Mais 50 ans d'errance. Et ça peut des fois être ça. Hein, et la grâce de Dieu, ici, l'a fait que, à 90, elle est morte à 90, 3, je crois, 96, qu'à 94 ans, elle a pu de nouveau se reconnecter avec son Dieu. Est-ce que David était un homme de foi ? Oui, et là je dis fort, hein, parce qu'il est même dans les Hébreux 11. Liliane nous en parlera dimanche prochain, c'est ça, hein, de David qui est cet homme de foi. On le cite même un des premiers héros de la foi. Mais je crois que ce qu'il exprime ici à travers ce verset 13 est pour moi vraiment quelque chose, une foi qui se vit et s'exprime dans nos fragilités, une foi qui se forge, une foi qui s'ancre sur un chemin parsemé de moments où des fois on doute et parfois de confiance. globalement, la confiance augmente dans notre chemin. Je peux dire comme ça, globalement, et parfois on doute un peu, mais ce n'est pas grave. C'est mieux de le dire et d'exprimer au Seigneur que de le... J'ose pas avoir cette pensée. Parce que finalement, elle est quand même là, cette pensée. Le verset 14 termine par cet appel que David fait dans d'autres psaumes, il en fait beaucoup plus. Là, il arrive seulement à la fin. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je me suis demandé à qui est-ce qu'il parlait là. Espère, est-ce qu'il parlait à nous? Je pense qu'il se l'est dit un peu à lui-même. Hein. Beaucoup de psaumes de David, hein. Mon âme, loue l'Éternel. Il se parle à lui un peu de l'auto. Pas d'autosuggestion, parce que c'est un peu négatif, mais il s'est repris un peu. C'est à moi maintenant de prendre position. Lui-même, certainement. Au peuple d'Israël qui a repris ce poème, oui, ils l'ont chanté encore aujourd'hui. À nous aujourd'hui qui bénéficions de ce texte, plus de 3000 ans après ce qu'il a été écrit. L'appel à espérer est en début et à la fin de ce verset. Il l'entoure. L'appel à être fort, avoir un cœur affermi, commence par l'espérance, se termine par l'espérance. D'où le dessin ici, je vois un peu comme deux mains qui entourent et qui portent l'humain qui reçoit cet appel, qui a besoin de force, qui a besoin d'un cœur affermi. Et ces mains de Dieu, cette espérance que Dieu nous donne, j'avais un peu cette impression, il place ses mains où on a besoin. Des fois, c'est dans des domaines spécifiques qu'on a besoin d'espérance. Il les placera là. Ses mains nous entourent. Ses mains peut-être sont comme ça. Parfois, il nous porte des moments, parfois, il nous entoure, parfois, il nous prend dans ses bras. Mais à ses deux mains, l'espérance au début, l'espérance à la fin. Et en paraphrasant, j'entendais l'Éternel nous dire ce soir, mais espère en moi, et c'est entouré de cette espérance que tu reçois la force pour vivre et pour faire face à ton cœur qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'amour, qui a besoin de confiance, qui a besoin d'appartenance pour battre et vibrer aussi pour moi, Dieu nous dit, et pour ceux qui t'entourent. L'espérance est là dès le départ. L'espérance dure jusqu'à l'arrivée, que ce soit pour ta vie, mais aussi pour tes projets que tu commences avec moi. Mon espérance ne faillit pas. Elle se poursuit jusqu'à la fin de tes projets, jusqu'à la fin de ta vie, car je suis là et je vis en toi par mon Esprit Saint. En conclusion aussi, un peu comme rappel, dans ma Bible, en tout cas, le titre de ce passage, c'était « Le triomphe de la foi ». Alors, David a gardé la foi en Dieu. Hein, s'il a vraiment, on peut dire, la foi a triomphé dans cette situation. Mais ce n'est pas une foi purement proclamatrice, une foi comme ça. Voilà, on dit les choses un peu, mais c'est une foi qui s'était incarnée au travers de tant de joie, mais ici surtout aussi des combats personnels, comme lorsqu'il est ici en fuite devant Saül, qui veut sa peau. Qui vaut la peau, je rappelle, d'un celui qui a été désigné par onction pour devenir le nouveau roi d'Israël. Et après le roi David, j'arrive au Nouveau Testament, il y a Jésus, le descendant de David, le Messie oint, le roi qui règne aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est dans notre marche avec lui qu'on est invité, et c'est aussi un peu un résumé de ces 6 points, à nous poser les bonnes questions pour relier ce qu'on croit des fois, ce qu'on dit avec notre cœur, se les approprier, les enraciner dans notre cœur. Une invitation à vivre toute notre vie dans la présence de Dieu, c'est une demande centrale et unique, et David l'a bien compris, de demander la présence avant de demander l'action de Dieu. Une invitation à être accueilli par Dieu notre Père qui nous donne la sécurité, face notamment à la peur d'être abandonné, d'être seul. Et aussi à lui demander de nous éclairer la route tout en nous protégeant du mal. Mais délivre-nous du mal, je pense la prière du Notre Père. À développer une foi incarnée sur un chemin parsemé de doutes et de confiance. Et finalement à nous laisser fortifier par l'espérance qui nous entoure sans relâche sur notre route. Ses bras sont toujours là. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Ses bras sont toujours là. Ses mains sont toujours là. Il n'y a pas tout à coup une main qui dit « oui ». toujours là. Ça, c'est le cadeau de Dieu, vraiment. Amen. Quelle heure est-il ? On peut encore prendre quelques minutes. Je voulais faire avec vous, pour terminer, une petite réflexion personnelle, méditation, vous l'appelez comme vous voulez, sur ces trois questions-là. Voilà, on parle de rentrée. Qu'est-ce que j'appréhende actuellement ? Lié à la reprise ou pas, ça peut, on appréhende autre chose. J'ai l'impression qu'on a tous des fois un peu des appréhensions. Qu'est-ce que j'appréhende ? Là, on est seul devant Dieu, on se pose cette question. Moi, je jouerai un peu de piano, juste voilà, dans un environnement paisible, on se pose cette question. Et puis, qu'est-ce que Dieu veut me dire, me rappeler au travers de ce psaume pour faire face à cette appréhension ? J'aimerais juste ajouter, ça me vient ici, l'appréhension, c'est quand même assez souvent, ou ça peut, parce que David, on le voit, il avait l'appréhension d'affronter Saül. On a quand même, je ne sais pas comment vous, mais des appréhensions, c'est assez souvent lié aussi à des relations, à des personnes, une appréhension, comment elle va réagir. On parle des fois de mes collègues, comment ils seront quand la rentrée. Lui, l'autre fois, j'ai discuté d'une appréhension, comment ça ira. Donc, c'est des fois des appréhensions qui peuvent être liées. Peut-être que vous avez un rendez-vous demain, puis vous dites, j'appréhende ce rendez-vous. Qu'est-ce que Dieu veut me dire, me rappeler à travers ce psaume ? Et puis, troisième, c'est quel est le prochain pas concret que je vais faire pour relier la parole de Dieu reçue avec ses promesses, avec ce que j'appréhende actuellement ? Ça va ? Alors, je vais... Pour ceux qui veulent écrire, je vous invite vraiment à noter. Alors, c'est pas, vous ne répondez pas pour moi, ces questions, je ne vais même pas les voir, ces réponses, c'est pour vous. Je vais faire passer ça, vous pouvez prendre une feuille du calepin et un crayon pour écrire vos réponses, ou peut-être dessiner quelque chose. Si vous avez votre téléphone, vous notez. Mais une invitation à garder, surtout là, le point 3, c'est la concrétisation, ça peut déjà être maintenant que je fais quelque chose. Ça peut être en rentrant ce soir, je fais quelque chose. Ça peut être demain matin, en partant à ce rendez-vous, je vais faire ça. Quelque chose qu'on pose dans ces appréhensions qu'on peut avoir. Je vais faire passer ça. Vous prenez si vous avez besoin, vous n'avez pas besoin, vous faites passer. Je vous invite pour terminer à la prière. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'espérance au début, à la fin. Et je te prie en particulier pour tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été écrit, tous ces prochains pas que mes amis, mes frères et sœurs ici ont pris maintenant, ont noté, ont retenu. Seigneur, tu affermis leur cœur, tu les fortifies pour qu'avec avec ce qu'ils ont pris comme décision, avec ce choix aussi, voilà, qu'ils puissent le faire, qu'ils puissent aussi voir ta main, qu'ils les accompagnent sur ce chemin. Seigneur, que ce chemin, c'est à cette étape d'une reprise, d'une voilà, un peu une appréhension, qu'ils puissent faire un pas, qu'ils va les faire passer ce cap, qui va les faire avancer et surtout qui va les faire réaliser que tu es ce Dieu bon et que ta bonté, ton espérance ne faillissent pas. Merci pour ta bonté et ton espérance qui ne faillit pas. Amen.